Bamako, à Lomé, à Conakry, bienvenue dans Salle Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous, aujourd'hui au sommaire de Salle Plus. L'ONU s'inquiète des défis humanitaires du Sahel. Le Togo intensifie sa lutte contre le VIH-Sida, notamment parmi les personnes les plus vulnérables.
Pour le client qui ne veut pas mettre le préservatif, notre travail est de l'amener à comprendre que maintenant il y a plus de risques de ne pas porter le préservatif que de le porter.
Reportage de notre correspondante Kay Lawson à suivre. Épidémie Ebola, pourquoi la crise a été sous-estimée? Les explications de l'OMS. Enfin, nous serons au Mali où une association essaye de promouvoir le sport pour prévenir les maladies. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, à ce micro Jean-Roger Billon.
Sarah Diaby.
Au Rwanda, l'ancien chef de la garde présidentielle a été arrêté. C'est le troisième haut gradé après une semaine pour des crimes liés à la sécurité de l'État, d'après l'AFP.
Le colonel Tom Biabagamba, ancien chef de l'unité antiterroriste du ministère de la Défense, a été arrêté samedi. Il est récemment revenu au Rwanda après avoir occupé des fonctions à l'état-major de la mission de l'ONU au Soudan du Sud. La semaine dernière, le général Frank Rusagara et le capitaine David Kabouye ont été arrêtés.
Le président sud-soudanais Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar ont signé aujourd'hui un nouvel engagement pour la cessation des hostilités, c'est ce que rapporte l'AFP.
Les précédents accords sont restés lettre morte. Réunis à Addis Abeba, les dirigeants de l'IGDAD leur ont donné 45 jours au parti pour former un gouvernement de transition. Le précédent délai de 60 jours initialement fixé pour sa formation avait expiré le 11 août sans aucun résultat.
Et les obsèques de Michael Brown, le jeune Africain-Américain tué aux États-Unis le 9 août par un policier blanc. Le jeune homme a été ensuite enterré en présence de sa famille au cimetière Saint-Peter's de Saint-Louis.
Avant l'inhumation, les funérailles se sont déroulées aux abords et dans l'église Baptist Friendly Temple Missionary qui pouvait accueillir jusqu'à 5000 fidèles. Écoutez le témoignage de Jean-Germain Gros, professeur de sciences politiques à l'Université du Missouri.
Les funérailles ont eu lieu ce matin dans une atmosphère assez détendue, conviviale, on pourrait même dire de festivité, quoi. Donc, il y avait une forte présence de stars ou vedettes, parmi lesquelles Spike Lee, P. Diddy, Snoop Dogg. Mais il y avait également des personnalités religieuses, parmi lesquelles Martin Luther King Jr. et surtout le révérend Al Sharpton, qui est en quelque sorte un représentant de la Maison-Blanche même, selon la presse. Donc il y a, c'est un monde assez mixte, impressionnant. Ce qui m'a frappé, c'est le fait que les funérailles ont été chantées par un oncle, un grand-oncle de Michael Brown, qui est également une personnalité religieuse. Donc tout ça a donné une atmosphère, disons, de surréalité à l'événement.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Irak, 11 personnes ont été tuées aujourd'hui et 32 autres blessées dans un attentat suicide contre une mosquée chiite dans l'est de Bagdad. Vendredi, une attaque contre une mosquée sunnite au nord-est de la capitale avait tué 70 personnes. Aucun lien n'a pour l'instant été clairement établi entre les deux attaques.
Le groupe djihadiste ultra-radical État islamique a revendiqué 3 attentats à la voiture piégée qui ont fait 24 morts samedi dans la ville de Krikout dans le nord, contrôlée par les forces kurdes. L'État islamique a précisé que 2 des 3 kamikazes étaient de nationalité allemande.
Des frappes israéliennes ont fait au moins 7 morts ce lundi dans la bande de Gaza, au 49e jour des combats entre Israël et les militants palestiniens du Hamas. De son côté, l'Égypte lance une nouvelle tentative pour faire cesser les hostilités. Le Caire doit soumettre une nouvelle proposition de cesser le feu dans cette guerre qui a déjà coûté la vie à plus de 2100 Palestiniens, des civils pour la plupart, et à 68 Israéliens.
La France en pleine tourmente politique après la démission du gouvernement, moins de 6 mois après la nomination de Manuel Valls au poste de Premier ministre. Ce dernier a été reconduit à son poste et la nouvelle équipe devrait être connue demain.
Le président ukrainien dissout le Parlement. La dissolution du Parlement était attendue étant donné l'effondrement de la coalition gouvernementale et la démission du Premier ministre Arseniy Yatsenyuk le 24 juillet dernier. Le scrutin aura lieu le 26 octobre, a précisé un porte-parole de la présidence ukrainienne.
L'organisation du scrutin représentera un grand défi puisque certaines régions de l'est du pays demeurent sous contrôle des rebelles pro-russes et que près de 2000 Près de 2000 personnes sont déplacées sur le territoire. Le président Petro Poroshenko se rend demain à Minsk au Belarus pour un sommet avec son homologue russe Vladimir Poutine et les dirigeants de l'Union européenne, rencontre qui sera en grande partie consacrée au conflit de l'Est de l'Ukraine.
La suite de Sahel+.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique. Nous ouvrons l'émission avec les mises en garde de l'ONU concernant le déficit pluviométrique au Sahel qui pourrait avoir de sévères conséquences sur le plan alimentaire l'hiver prochain. Mais la sécheresse n'est pas le seul déficit humanitaire du Sahel, selon Robert Piper, coordinateur humanitaire des Nations Unies pour le Sahel.
Effectivement, dans la région du Sahel, on parle de 9 pays avec une population d'à peu près 145 millions de personnes. C'est une région assez importante, avec des taux de croissance démographique assez élevés aussi. Donc, une région qui va se doubler en population à 23 ans. Nous faisons face à des défis humanitaires très élevés encore en 2014. Des défis d'un côté chronique et de l'autre côté ponctuel, aigu, disons. Côté chronique, au-dessus de 20 millions de personnes dans cette région du Sahel sont à risque d'insécurité alimentaire. Parmi eux, 5 millions déjà dans une situation de crise. On a à peu près encore cette année 5 millions d'enfants mal nourris à des niveaux vraiment aigus, un montant très élevé dont nous devons répondre bien sûr le plus vite possible. À peu près 17 millions de personnes à risque d'épidémie maintenant que la pluie commence. La région fait face quand même aussi à des déplacements très importants à cause de l'insécurité et le conflit. Au Mali, le nord de Mali, bien sûr, on a vu beaucoup de problèmes, beaucoup de déplacements internes. Des réfugiés maliens qui se trouvent aujourd'hui au Burkina, au Niger, en Mauritanie. On a des réfugiés qui arrivent du Darfour au Soudan et surtout maintenant récemment de la République centrafricaine. 200 000 réfugiés évacués de ce pays en crise se sont trouvés au Cameroun, au Tchad, aussi des pays du Sahel. Et finalement, le nord de la Nigeria qui est en crise, qui crée un déplacement de réfugiés qui traversent la frontière juste au Niger ou au Cameroun, ou bien des déplacés internes qui ont besoin de beaucoup de soutien.
Robert Piper, coordinateur humanitaire des Nations Unies pour le Sahel, au micro de Nathalie Barge. Nous sommes au Togo pour notre dossier qui est aujourd'hui consacré à la lutte contre le VIH-Sida. Au Togo, malgré le fait que le taux de prévalence soit en régression, le pays a décidé de cibler les groupes de personnes les plus vulnérables, notamment les travailleuses du sexe, à qui un programme est spécialement dédié. La prévalence à l'épidémie est de 2,3% sur le plan national, alors qu'au sein de cette cible, elle tourne autour de 13%. La lutte contre le VIH-Sida dans le milieu des professionnels du sexe du Togo, un reportage de notre correspondante à Lomé, Kaïl Osson.
Dans sa politique nationale de lutte contre le VIH-Sida baptisée Vision 2020, le Togo prévoit une génération sans sida. La mise en œuvre des différents programmes ont permis au pays d'avancer dans la lutte, mais des disparités subsistent. Professeur Vincent Pitié, il est le coordonnateur du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles au Togo.
Actuellement, la prévalence nationale est de 2,3%. Elle était de 4% en 2005. Sur le plan de la prévention également, on a noté de 2005 à 2013 une diminution de plus de 50% des nouvelles infections. Mais derrière les chiffres, les moyens nationaux, il y a des disparités régionales. Par exemple, à Lomé, la prévalence est autour de 6%, alors qu'elle est de 1,2% dans la région des savanes. Et chez si de la population générale, la prévalence était de 2,3%. Chez les professionnels de sexe, elle est de 13%.
Compte tenu de la forte prévalence dans le milieu des professionnels du sexe, un programme est spécialement destiné à cette cible particulièrement vulnérable. Afi Boko, directrice de la famille et des jeunes filles au ministère de l'Action sociale.
Les professionnels de sexe constituent l'un des groupes les plus vulnérables dans le pays. Et si on veut réellement réduire le taux du VIH dans le pays, on ne peut pas ne pas mener des actions à l'endroit des groupes les plus vulnérables. Il est question de prévoir les actions qui permettront de réduire le plus possible le taux du VIH-Sida chez les professionnels de sexe et chez leurs clients ainsi que chez leurs partenaires.
L'un des des axes de ce programme spécial est la sensibilisation des professionnels de sexe afin que ces dernières puissent adopter des comportements responsables. Nous écoutons cette travailleuse de sexe. Elle revient sur le port systématique du préservatif.
Le travail que nous faisons, vous savez, si vous ne mettez pas le préservatif, vous avez d'abord le risque de tomber enceinte. Ce n'est pas seulement les maladies. Il y a d'autres maladies, il n'y a pas que le sida. Pour le client qui ne veut pas mettre le préservatif, notre travail est de l'amener à comprendre que maintenant, il y a plus de risques de ne pas porter le préservatif que de le porter.
Au Togo, le VIH-SIDA s'est féminisé. 60% des PVVIH sont des femmes. L'implication des travailleuses de sexe dans cette féminisation de l'épidémie n'est pas à négliger. Professeur Vincent Pitié, coordonnateur du CNLS.
Le fait qu'elles soient stigmatisées, discriminées, explique que la prostitution est un peu clandestine et donc ça fait que parfois elles ne sont pas touchées par les services. En 2005, la prévalence des problèmes de sexe était de 29%. On est actuellement de 13%. Donc on espère encore continuer la réduction d'ici 2020 pour vraiment que l'épidémie devienne insignifiante pour la population générale. Parce que le problème de sexe, c'est madame tout le monde, c'est les couturiers, c'est les coiffeuses, c'est les portefeuilles au marché, c'est les maisons closes. Et les clients de ces problèmes de sexe, c'est les routiers, c'est les jeunes, c'est les étudiants, c'est les fonctionnaires, c'est nous qui les fréquentons.
En plus des professionnels de sexe, c'est la cible des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes et la prévention de la transmission mère-enfant qui constituent les priorités du gouvernement togolais qui aspire à une génération sans sida à l'horizon 2020. Kailoson Lomé pour La Voix de l'Amérique.
Vous êtes bien à l'écoute de CL+ sur La Voix de l'Amérique et sur le 95.5 FM à Dapaong au Togo sur la radio Courtoisie. Rubrique santé, l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola suscite de nombreuses craintes et questions en Afrique de l'Ouest et ailleurs. C'est pourquoi l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a publié une nouvelle mise au point, tentant notamment d'expliquer pourquoi l'épidémie avait été sous-estimée. Plus de détails avec Michel Joseph.
Eh bien, tout d'abord, le public se demande pourquoi l'ampleur de l'épidémie d'Ebola, notamment au Liberia et en Sierra Leone, a été sous-estimée. Eh bien, explique l'OMS, beaucoup de familles cachent des proches infectés dans leur maison. Comme aucun remède n'existe pour le virus à Ebola, les familles des malades estiment qu'ils seront mieux chez eux pour mourir. D'autres parents nient que les malades souffrent du virus à Ebola et sont convaincus que les salles d'isolement, considérées comme des sites d'incubation de la maladie, vont au contraire empirer l'état du malade et conduire à une mort certaine. Par ailleurs, les familles redoutent la stigmatisation et le rejet social qui s'ensuit lorsqu'un diagnostic d'Ebola est confirmé. Les épidémies de virus à Ebola se déplacent rapidement, créant des défis pour les partenaires internationaux. Réagir nécessite des quantités de personnel, d'équipement et de matériel, dont les combinaisons nécessaires pour protéger le personnel soignant, les masques et les gants. Très rapidement, les services de santé publique sont débordés, on manque de tout. Beaucoup de centres de traitement et de cliniques ont fermé. La peur empêche les patients de s'y présenter et elle pousse le personnel médical à fuir. Les familles cachent leurs morts. Dans certains cas, les épidémiologistes ont parcouru des villages et compté le nombre de tombes fraîches pour se faire une idée des cas suspects. Dans certaines régions du Libéria, un phénomène inédit se produit. Dès qu'une nouvelle installation de traitement est ouverte, elle est immédiatement remplie de patients dont beaucoup n'avaient pas été identifiés auparavant. Ce phénomène révèle les carences des systèmes officiels de surveillance. Par exemple, à Monrovia, la capitale, un centre de traitement d'Ebola doté de 20 lits qui a ouvert la semaine dernière a été immédiatement pris d'assaut par plus de 70 patients.
Partant du principe que le sport est important pour la santé et que pratiquer une activité physique et sportive peut aider à prévenir beaucoup de maladies, une association malienne a cherché comment adapter de la meilleure façon qui soit le sport et l'alimentation à l'organisme. Notre correspondant Kassim Traoré nous en dit plus sur l'importance des activités physiques et sportives.
Il est bon de pratiquer les activités physiques et sportives parce qu'elles font brûler plus de calories. C'est pourquoi il n'est pas rare de voir des gens marcher, pratiquer les arts martiaux, la gymnastique, la danse ou le jardinage. Si ces pratiques permettent de vivre longtemps en bonne santé, elles répondent aussi à des critères. Professeur Anselme Konaté, hépato-gastro-entérologue au CHI Gabriel Touré de Bamako.
Selon l'OMS, l'inactivité physique, je précise, l'inactivité physique entraîne dans 33% des cas des cancers, et en particulier le cancer du côlon, le cancer du sein, le cancer des reins dans 33% des cas. Et aussi, toujours selon l'OMS, il a été constaté que la mortalité par inactivité est 1,2 à 2 fois supérieure chez des patients ou des sujets qui sont inactifs comparativement aux sujets qui sont actifs.
Les activités physiques et sportives sont réparties en groupes. Celles dites d'endurance, la marche rapide, le vélo, le saut à la corde, celles dites le renforcement de la musculature ou d'équilibre comme la marche normale, la montée d'escalier, le jardinage et celles dites d'assouplissement comme le yoga, les arts martiaux, l'entretien domestique. Pour les maladies du système digestif, par exemple, ce sont les activités de renforcement de la musculature et de l'équilibre et les activités d'assouplissement qui sont conseillées. Professeur Anselme Konaté.
Les problèmes de gastrite, d'ulcère, l'activité physique en accélérant la vidange gastrique peut participer à améliorer ou à éviter, comme vous le dites, la prévention de ces affections. Avec le renforcement de la musculature et de la motricité intestinale et musculaire. Donc, ceci va contribuer à éviter qu'il y ait une formation de calcul au niveau de la vésicule biliaire. L'activité physique va favoriser la vidange de la vésicule biliaire et par conséquent éviter des problèmes de calcul de la vésicule biliaire et des problèmes de cholécystite.
Mais le type d'activité physique et sportive que nous menons est-il adapté à l'organisme et à ce que nous attendons de l'effort? Pas tous les jours, nous dit Mamadou Tangara, physiothérapeute au CHJ Gabriel Touré.
Pas adapter son sport à sa pathologie. Faire l'haltérophilie, par exemple, alors qu'on a son sphincter, son périnée qui est flasque, ça n'a pas beaucoup de sens. Vous allez plutôt perdre vos urines en voulant soulever ses poils. C'est plutôt une activité sportive dirigée, centrée sur le périnée.
Adapter l'activité physique et sportive et l'alimentation à la santé, c'est ce que propose aujourd'hui au Malien Physosport, l'association pour la promotion de l'activité physique et sportive. Les spécialistes se réunissent en son sein, conseillent avant tout un bilan biologique pour mieux choisir l'activité physique et sportive qui sied à l'organisme en face d'eux. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Together as one, we stand, oh Africa, sharing and caring in peace, love and harmony. Oh. Happiness and laughter in unity, Africa to Copamoja.
Yeah.
To Copamoja.
Yeah.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation et à la console, Michel Joseph. Au micro, Claire Morin-Gipour. Nous nous quittons en musique avec Teddy Afro et son single Africa Pamoja. Rendez-vous demain à 21h, temps universel sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Cheki tuko wengi wengi pamoja na hatu regi regi together tunagatha kiji for esteli tuko radia na to be sincere this year ata bila maskio utatusikia ata kawe ni rapper utatuimbia the P-R-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C